RFI. Le Monde à midi.
La crise politique s'intensifie en Géorgie. Des milliers, des dizaines de milliers de manifestants étaient dans les rues hier soir, une fois encore pour dénoncer la loi russe, comme ils l'appellent. Cette loi oblige tous les médias, toutes les associations à se déclarer agents de l'étranger à partir du moment où ils reçoivent au moins 20% de leur budget de pays ou de donateurs étrangers. Elle a été adoptée en deuxième lecture hier, mais chaque camp persiste et notre invité pour en parler est professeur émérite d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales. Bonjour Charles Urgevitch.
Bonjour.
Adoption en deuxième lecture donc hier. Il reste des étapes encore, d'une part législative, et puis la présidente a aussi la possibilité de mettre son veto. Pensez-vous que le processus ira jusqu'au bout ?
C'est une question qu'on peut se poser, mais j'ai l'impression que le pouvoir est décidé à aller réellement jusqu'au bout, c'est-à-dire cherchera tous les moyens qui lui permettront de contourner le veto présidentiel.
Un moyen donc de contourner le veto présidentiel qui pourrait s'exprimer de quelle manière ?
C'est une question qu'on peut se poser. On a tenté une première fois, il y a déjà un certain temps, une procédure d'impeachment contre Salomé Zourabichvili. Va-t-on réitérer ? Je ne sais pas. La tension est très grande. Le pouvoir semble décidé. La rue semble également très décidée. Je pense que dans ce conflit qui oppose deux Géorgies, le pouvoir continue à tabler sur un soutien au moins passif d'une majorité silencieuse qu'il a convoquée il y a quelques jours dans une grande manifestation très organisée, bien entendu. Une majorité silencieuse provinciale, plus traditionnel dans son rapport au quotidien, au religieux. Le pouvoir joue la carte de l'antéchrist, si j'ose dire, c'est-à-dire que ces organisations qu'il voudrait contrôler, n'est-ce pas, grâce à cette loi, seraient d'une certaine manière les éléments destructeurs de la tradition géorgienne, de l'histoire géorgienne, etc., etc., etc.
Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, les manifestations que l'on observe à Tbilissi, si importantes soient-elles, ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble de la population géorgienne ?
Toute la question est de savoir jusqu'où ira le soutien ou la passivité de la masse de la population. Tbilissi est une métropole importante, 1 million d'habitants, une métropole éduquée, une métropole très ouverte sur le monde, très ouverte sur l'Europe en l'occurrence, une métropole où se concentre la plus grande partie des couches éduquées. C'est une métropole où la pratique de l'anglais est très large. C'est une métropole où on a l'habitude de se rendre à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, grâce aux visas de 3 mois qui sont accordés aux citoyens géorgiens. Ou plutôt le permis de voyage de 3 mois accordé aux citoyens géorgiens. C'est, comment vous dire, c'est un monde à part. C'est un monde très, très ouvert. Je crois que lorsqu'on voit d'ailleurs les vidéos, lorsqu'on voit les photos des manifestations, on a l'impression d'être quelque part en Europe, tout simplement. Alors, je ne dirais pas que le reste de la Géorgie est oriental, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense malgré tout qu'il faut se rendre compte du fait qu'on vit à un autre rythme, qu'on a un autre niveau de vie, qu'on a d'autres références et qu'on est beaucoup plus sous influence des télévisions et des médias d'État qui jouent, je le répète, de manière intensive, violente même, la carte de la tradition, entre guillemets, bien entendu.
Alors, il y a en plus, ça c'est ce que joue le pouvoir, comme vous nous l'expliquiez, le gouvernement. Mais il y a eu plusieurs réactions à cette loi, au vote d'hier, de la part de l'Union européenne, de la part des États-Unis, de la France par exemple, qui ont tous condamné cette loi et la rhétorique occidentale du parti Rêve géorgien, comme l'ont dit les États-Unis. Est-ce que selon vous, il pourrait y avoir un autre mouvement qui viendrait du camp occidental lui-même et qui isolerait en quelque sorte la Géorgie ?
Je crois que c'est le danger. Je crois que l'Union européenne n'a d'autre choix que de montrer son mécontentement, sa désapprobation face aux manœuvres du pouvoir géorgien actuel. Les États-Unis jouent habituellement leur rôle. Il faut dire que lorsqu'on est géorgien, on peut être à certains moments agacé par l'interventionnisme américain dans la vie quotidienne, dans la vie politique du pays. Mais je pense qu'il y a encore un autre facteur dont on ne parle peut-être pas suffisamment, c'est le facteur ukrainien. Alors les Géorgiens ont dès le départ, dès le début, montré leur solidarité entière avec l'Ukraine. Beaucoup de Géorgiens sont partis combattre aux côtés des Ukrainiens. Ceci étant dit, la situation que l'on observe depuis maintenant des mois sur le front en Ukraine, cette avancée lente de l'armée russe, cette aide timorée de l'Occident, ces retards américains dans la livraison d'armes à la suite du blocage républicain, bien entendu, tout cela ne joue un rôle dans, je dirais, la perception que beaucoup de Géorgiens ont de l'Occident. Or, lorsqu'on est géorgien, on a les yeux rivés, certes, vers l'Europe, parce que c'est un but, c'est un rêve, mais dans le même temps, on ne peut pas détourner totalement le regard de ce qui se passe au nord du pays, c'est-à-dire de la Russie, de ce danger russe, et la peur de voir se réitérer 2008, c'est-à-dire la guerre russo-géorgienne, qui s'est terminée sans trop de dégâts, certes par la perte des territoires sécessionnistes, mais malgré tout, qui a laissé la plus grande partie du pays hors du champ guerrier.
Et qui est très présente encore dans les esprits.
Elle est très présente, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, évidemment, fait très très peur, je pense, à une partie de l'opinion.
Je vous remercie.
Et le pouvoir, à mon avis, tente de jouer, bien entendu, sur cette peur également.
Merci beaucoup, Charles Jurjevitch, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales à Paris. Au revoir.